Honoré de Balzac, Illusion perdue, 26. À 2 heures, le lendemain, l'actrice et son amant étaient habillés et en présence, comme si le poète fût venu faire une visite à sa protégée. Coralie avait baigné, peigné, coiffé, habillé Lucien. Elle lui avait envoyé chercher 12 belles chemises, 12 cravates, 12 mouchoirs chez Colliot, une douzaine de gants dans une boîte de cèdre. Quand elle entendit le bruit d'une voiture à sa porte, elle se précipita vers la fenêtre avec Lucien. Tous deux virent Camusot descendant d'un coupé magnifique. « Je ne croyais pas, dit-elle, qu'on pût haïr tant un homme et le luxe. Oh, je suis trop pauvre pour consentir à ce que vous vous ruiniez, dit Lucien en passant ainsi sous les fourches caudines. Pauvre petit chat, dit-elle en pressant Lucien sur son cœur, tu m'aimes donc bien. J'ai engagé monsieur, dit-elle en montrant Lucien à Camusot, à venir me voir ce matin, en pensant que nous irions nous promener aux Champs-Élysées pour essayer la voiture. « Oh, allez-y seul, » dit tristement Camusot. « Je ne dîne pas avec vous. C'est la fête de ma femme. Je l'avais oubliée. »« Oh, pauvre Museau, comme tu t'ennuieras, » dit-elle en sautant au cou du marchand. Elle était ivre de bonheur, en pensant qu'elle étrennerait seule avec Lucien ce beau coupé. Qu'elle irait seule avec lui au bois. Et, dans son accès de joie, elle eut l'air d'aimer Camusot, à qui elle fit 1000 caresses. « Je voudrais pouvoir vous donner une voiture tous les jours, » dit le pauvre homme. « Allons, monsieur, il est 2 heures, » dit l'actrice à Lucien, qu'elle vit honteux et qu'elle consola par un geste adorable. Coralie dégringola les escaliers en entraînant Lucien, qui entendit le négociant se traînant comme un phoque après eux, sans pouvoir les rejoindre. Le poète éprouva la plus enivrante des jouissances. Coralie, que le bonheur rendait sublime, offrit à tous les yeux ravis une toilette pleine de goût et d'élégance. Le Paris des Champs-Élysées admira ces deux amants. Dans une allée du bois de Boulogne, leur coupé rencontra la calèche de mesdames d'Espard et de Bargeton qui regardèrent Lucien d'un air étonné, mais auquel il lança le coup d'œil méprisant du poète qui pressent sa gloire et va user de son pouvoir. Le moment où il put échanger par un coup d'œil avec ces deux femmes quelques-unes des pensées de vengeance qu'elles lui avaient mises au cœur pour le ronger fut un des plus doux de sa vie et décida peut-être de sa destinée. Lucien fut repris par les furies de l'orgueil. Il voulut reparaître dans le monde, y prendre une éclatante revanche, et toutes les petitesses sociales, naguère foulées aux pieds du travailleur, de l'ami du cénacle, rentrèrent dans son âme. Il comprit alors toute la portée de l'attaque faite pour lui par Lousteau. Lousteau venait de servir ses passions. Tandis que le cénacle, ce mentor collectif, avait l'air de les mater au profit des vertus ennuyeuses et de travaux que Lucien commençait à trouver inutiles. Travailler, n'est-ce pas la mort pour les âmes avides de jouissance? Aussi, avec quelle facilité les écrivains ne glissent-ils pas dans le farniente, dans la bonne chair et les délices de la vie luxueuse, des actrices et des femmes faciles. Lucien sentit une irrésistible envie de continuer la vie de ces deux folles journées. Le dîner au rocher de Cancale fut exquis. Lucien trouva les convives de Florine, moins le ministre, moins le duc et la danseuse, moins Camusot, remplacés par 2 acteurs célèbres et par Hector Merlin, accompagné de sa maîtresse, une délicieuse femme qui se faisait appeler Madame du Val-Noble, la plus belle et la plus élégante des femmes qui composaient alors à Paris le monde exceptionnel de ces femmes qu'aujourd'hui l'on a décemment nommées des lorettes. Lucien, qui vivait depuis 48 heures dans un paradis, apprit le succès de son article. En se voyant fêté, envié, le poète trouva son aplomb. Son esprit scintilla. Il fut le Lucien de Rubempré qui, pendant plusieurs mois, brilla dans la littérature et dans le monde artiste. Finot, cet homme d'une incontestable adresse à deviner le talent, dont il devait faire une grande consommation, et qui le flairait comme un ogre sans la chair fraîche, cajola Lucien en essayant de l'embaucher dans l'escouade de journalistes qu'il commandait. Et Lucien mordit à ses flatteries. Coralie observa le manège de ce consommateur d'esprit et voulut mettre Lucien en garde contre lui. « Ne t'engage pas, mon petit, » dit-elle à son poète. « Attends, ils veulent t'exploiter. Nous causons de cela ce soir. »«
Bah, » lui répondit Lucien,
« je me sens assez fort pour être aussi méchant et aussi fin qu'ils peuvent l'être. » Finot, qui ne s'était sans doute pas brouillé pour les Blancs avec Hector Merlin, présenta Merlin à Lucien et Lucien à Merlin. Coralie et Madame du Val-Noble fraternisèrent, se comblèrent de caresses et de prévenances. Madame du Val-Noble invita Lucien et Coralie à dîner. Hector Merlin, le plus dangereux de tous les journalistes présents à ce dîner, était un petit homme sec, à lèvres pincées, couvant une ambition démesurée, d'une jalousie sans bornes, heureux de tous les maux qui se faisaient autour de lui, profitant des divisions qu'il fomentait, ayant beaucoup d'esprit, peu de vouloir, mais remplaçant la volonté par l'instinct qui mène les parvenus vers les endroits éclairés par l'or et par le pouvoir. Lucien et lui se déplurent mutuellement. Il n'est pas difficile d'expliquer pourquoi. Merlin eut le malheur de parler à Lucien à haute voix, comme Lucien pensait tout bas. Au dessert, les liens de la plus touchante amitié semblaient unir ces hommes qui tous se croyaient supérieurs l'un à l'autre. Lucien, le nouveau venu, était l'objet de leur coquetterie. On causait à cœur ouvert. Hector Merlin, seul, ne riait pas. Lucien lui demanda la raison de sa raison. « Mais je vous vois entrant dans le monde littéraire et journaliste, avec des illusions. Vous croyez aux amis. Nous sommes tous amis ou ennemis, selon les circonstances. Nous nous frappons les premiers avec l'arme qui devrait ne nous servir qu'à frapper les autres. Vous vous apercevrez avant peu que vous n'obtiendrez rien par les beaux sentiments. Si vous êtes bon, faites-vous méchant. Soyez hargneux par calcul. Si personne ne vous a dit cette loi suprême, je vous la confie, et je ne vous aurais pas fait une médiocre confidence. Pour être aimé, ne quittez jamais votre maîtresse sans l'avoir fait pleurer un peu. Pour faire fortune en littérature, blessez toujours tout le monde, même vos amis. Faites pleurer les amours propres. Tout le monde vous caressera. » Hector Merlin fut heureux en voyant à l'air de Lucien que sa parole entrait chez le néophyte comme la lame d'un poignard dans un cœur. On joua. Lucien perdit tout son argent. Il fut emmené par Coralie, et les délices de l'amour lui firent oublier les terribles émotions du jeu qui, plus tard, devait trouver en lui l'une de ses victimes. Le lendemain, en sortant de chez elle, et revenant au quartier latin, il trouva dans sa bourse l'argent qu'il avait perdu. Cette attention l'attrista d'abord. Il voulut revenir chez l'actrice et lui rendre un don qui l'humiliait. Mais il était déjà rue de la Harpe, il continua son chemin vers l'hôtel Cluny. Tout en marchant, il s'occupa de ce soin de Coralie. Il y vit une preuve de cet amour maternel que ces sortes de femmes mêlent à leur passion. Chez elle, la passion comporte tous les sentiments.
De pensée en pensée, Lucien finit par trouver une raison d'accepter en se disant
« Je l'aime, nous vivrons ensemble comme mari et femme, et je ne la quitterai jamais. »
À moins d'être Diogène, qui ne comprendrait alors les sensations de Lucien en montant l'escalier boueux et puant de son hôtel, en faisant grincer la serrure de sa porte, en revoyant le carreau sale et la piteuse cheminée de sa chambre horrible de misère et de nudité. Il trouva sur sa table le manuscrit de son roman et ce mot de Daniel d'Arthez. « Nos amis sont presque contents de votre œuvre, cher poète. Vous pourrez la présenter avec plus de confiance, disent-ils, à vos amis et à vos ennemis. Nous avons lu votre charmant article sur le panorama dramatique, et vous devez exciter autant d'envie dans la littérature que de regrets chez nous. »
Daniel. « Regret ? Que veut-il dire ? » s'écria Lucien, surpris du ton de politesse qui régnait dans ce billet. Était-il donc un étranger pour le Cénacle ? Après avoir dévoré les fruits délicieux que lui avait tendus l'Ève des coulisses, il tenait encore plus à l'estime et à l'amitié de ses amis de la rue des Quatre Vents. Il resta pendant quelques instants plongé dans une méditation par laquelle il embrassait son présent dans cette chambre et son avenir dans celle de Coralie. En proie à des hésitations alternativement honorables et dépravantes, il s'assit et se mit à examiner l'état dans lequel ses amis lui rendaient son œuvre. Quel étonnement fut le sien ! De chapitre en chapitre, la plume habile et dévouée de ces grands hommes, encore inconnus, avait changé ses pauvretés en richesses. Un dialogue plein, serré, concis, nerveux, remplaçait ses conversations, qu'il comprit alors n'être que des bavardages en les comparant à des discours où respirait l'esprit du temps. Ses portraits, un peu mous de dessin, avaient été vigoureusement accusés et colorés. Tous se rattachaient aux phénomènes curieux de la vie humaine par des observations physiologiques dues sans doute à Bianchon, exprimées avec finesse et qui les faisaient vivre. Ces descriptions verbeuses était devenu substantiel et vive. Il avait donné une enfant mal faite et mal vêtue, et il retrouvait une délicieuse fille en robe blanche, à ceinture, à écharpe rose, une création ravissante. La nuit le surprit, les yeux en pleurs, atterré de cette grandeur, sentant le prix d'une pareille leçon, admirant ses corrections qui lui en apprenaient plus sur la littérature et sur l'art que ses 4 années de travaux, de lecture, de comparaison et d'études. Le redressement d'un carton mal conçu, un trait magistral sur le vif, en disent toujours plus que les théories et les observations. Quels amis, quel cœur ! Oh, suis-je heureux ! S'écria-t-il en serrant le manuscrit. Entraîné par l'emportement naturel aux natures poétiques et mobiles, il courut chez Daniel. En montant l'escalier, il se crut cependant moins digne de ses cœurs que rien ne pouvait faire dévier du sentier de l'honneur. Une voix lui disait que, si Daniel avait aimé Coralie, il ne l'aurait pas acceptée avec Camusot. Il connaissait aussi la profonde horreur du Cénacle pour les journalistes, et il se savait déjà quelque peu journaliste. Il trouva ses amis, moins Méraud, qui venait de sortir, en proie à un désespoir peint sur toutes les figures.
« Qu'avez-vous, mes amis ? » dit Lucien.
« Nous venons d'apprendre une horrible catastrophe. Le plus grand esprit de notre époque, notre ami le plus aimé, celui qui pendant 2 ans a été notre lumière, Louis Lambert, dit Lucien.
Il est dans un état de catalepsie qui ne laisse aucun espoir, dit Bianchon. il mourra, le corps insensible et la tête dans les cieux, ajouta solennellement Michel Chrétien.
Il mourra comme il a vécu, dit d'Arthez.
L'amour, jeté comme un feu dans le vaste empire de son cerveau, l'a incendié, dit Léon Giraud.
Ou, dit Joseph Bridau,
l'a exalté à un point où nous le perdons de vue.
C'est nous qui sommes à plaindre, dit Fulgence Ridal.
Il se guérira peut-être, s'écria Lucien.
Oh, d'après ce que nous a dit Méraud, la cure est impossible, répondit Bianchon. Sa tête est le théâtre de phénomènes sur lesquels la médecine n'a nul pouvoir.
Il existe cependant des agents, dit d'Arthez.
Oui, dit Bianchon, il n'est que cataleptique. Nous pouvons le rendre imbécile.
Ne pouvoir offrir au génie du mal une tête en remplacement de celle-là,
moi je donnerais la mienne, s'écria Michel Chrétien.
Et que deviendrait la Fédération européenne ? Dit d'Arthez.
Ah, c'est vrai, reprit Michel Chrétien. Avant d'être un homme, on appartient à l'humanité.
Je venais ici, le cœur plein de remerciements pour vous tous, dit Lucien.
Vous avez changé mon billon en louis d'or.
Des remerciements. Mais pour qui nous prends-tu ? Dit Bianchon.
Le plaisir a été pour nous, reprit Fulgence.
Eh bien, vous voilà journaliste, lui dit Léon Giraud. Le bruit de votre début est arrivé jusque dans le quartier latin.
Oh, pas encore, répondit Lucien.
Ah, tant mieux, dit Michel Chrétien.
Je vous le disais bien, reprit d'Arthez. Lucien est un de ces cœurs qui connaissent le prix d'une conscience pure.
N'est-ce pas un viatique fortifiant que de poser le soir sa tête sur l'oreiller en pouvant se dire
« Je n'ai pas jugé les œuvres d'autrui, je n'ai causé d'affliction à personne. Mon esprit, comme un poignard, n'a fouillé l'âme d'aucun innocent. Ma plaisanterie n'a immolé aucun bonheur, elle n'a même pas troublé la sottise heureuse. Elle n'a pas injustement fatigué le génie. J'ai dédaigné les faciles triomphes de l'épigramme. Enfin, je n'ai jamais menti à mes convictions. »
Mais, dit Lucien, on peut, je crois, être ainsi tout en travaillant à un journal. Si je n'avais décidément que ce moyen d'exister, il faudrait bien y venir.
Oh, 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 fit Fulgence en montant d'un ton à chaque exclamation.
Nous capitulons.
Et il sera journaliste, dit gravement Léon Giraud.
Ah, Lucien, si tu voulais l'être avec nous, qui allons publier un journal où jamais ni la vérité ni la justice ne seront outragées, où nous répandrons les doctrines utiles à l'humanité, peut-être...
Vous n'aurez pas un abonné, répliqua machiavéliquement Lucien en interrompant Léon.
Ils en auront 500 qui en vaudront 500 000, répondit Michel Chrétien.
Il vous faudra bien des capitaux, reprit Lucien.
« Non, dit d'Arthez, mais du dévouement. »«
Tu sens comme une vraie boutique de parfumeur, » dit Michel Chrétien en flairant par un geste comique la tête de Lucien.
« On t'a vu dans une voiture supérieurement astiquée, traînée par des chevaux de dandy, avec une maîtresse de prince, Coralie. »«
Eh bien, dit Lucien, y a-t-il du mal à cela ?»«
Tu dis cela comme s'il y en avait. » lui cria Bianchon.
J'aurais voulu à Lucien, dit d'Arthez, une Béatrix, une noble femme qui l'aurait soutenue dans la vie.
Mais, Daniel, est-ce que l'amour n'est pas partout semblable à lui-même ?
Dit le poète.
Ah, dit le républicain, ici, je suis aristocrate. Je ne pourrais pas aimer une femme qu'un acteur baise sur la joue en face du public. Une femme tutoyée dans les coulisses, qui s'abaisse devant un parterre et lui sourit, qui danse des pas en relevant ses jupes, et qui se met en homme pour montrer ce que je veux être seul à voir. Ou, si j'aimais une pareille femme, elle quitterait le théâtre et je la purifierais par mon amour.
Et si elle ne pouvait pas
quitter le théâtre. Je mourrais de chagrin, de jalousie, de mille maux. On ne peut pas arracher son amour de son cœur comme on arrache une dent. » Lucien devint sombre et pensif. « Quand ils apprendront que je subis Camusot, ils me mépriseront, » se disait-il. « Tiens, » lui dit le sauvage républicain avec une affreuse bonhomie, « tu pourras être un grand écrivain, mais tu ne seras jamais qu'un petit farceur. » Il prit son chapeau et sortit. « Il est dur, Michel Chrestien, » dit le poète. « Dur et salutaire, comme le davier du dentiste, » dit Bianchon. « Michel voit ton avenir, et peut-être en ce moment pleure-t-il sur toi dans la rue. » D'Arthez fut doux et consolant. Il essaya de relever Lucien. Au bout d'une heure, le poète quitta le cénacle, maltraité par sa conscience qui lui criait « Tu seras journaliste !» Comme la sorcière crie à Macbeth « Tu seras roi !» Dans la rue, il regarda les croisées du patient d'Arthez, éclairées par une faible lumière, et revint chez lui, le cœur attristé, l'âme inquiète. Une sorte de pressentiment lui disait qu'il avait été serré sur le cœur de ses vrais amis pour la dernière fois. En entrant dans la rue de Cluny, par la place de la Sorbonne, il reconnut l'équipage de Coralie. Pour venir voir son poète un moment, pour lui dire un simple bonsoir, l'actrice avait franchi l'espace du boulevard du Temple à la Sorbonne. Lucien trouva sa maîtresse tout en larmes à l'aspect de sa mansarde. Elle voulait être misérable comme son amant. Elle pleurait en rangeant les chemises, les gants, les cravates et les mouchoirs dans l'affreuse commode de l'hôtel. Ce désespoir était si vrai, si grand, il exprimait tant d'amour que Lucien, à qui l'on avait reproché d'avoir une actrice, vit dans Coralie une sainte, bien près d'endosser le cilice de la misère. Pour venir, cette adorable créature avait pris le prétexte d'avertir son ami que la société Camusot, Coralie et Lucien rendraient à la société Matifa, Florine et Lousteau leur souper, et de demander à Lucien s'il avait quelque invitation à faire qui lui fût utile. Lucien lui répondit qu'il en causerait avec Lousteau. L'actrice, après quelques moments, se sauva en cachant à Lucien que Camusot l'attendait en bas.